OK, on va commencer notre 22e leçon de notre série sur la sanctification. On va continuer ce qu'on avait débuté la semaine dernière, qui était soulager sa soif spirituelle. On avait fait la première partie, on avait fait le premier point. On va relire le passage qu'on est en train de vouloir comprendre et appliquer dans nos vies. Dans Jean, chapitre 7, versets 37 et 38, ça disait « Or, au dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et il cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, selon ce que l'Écriture dit, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. » Or, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit Saint répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, on avait regardé la semaine dernière le premier point, la soif spirituelle qui était exprimée par le début du verset qui dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Alors, on avait regardé tous les points, les sous-points de ce premier point. On va regarder ce soir le deuxième point. Donc, il y avait le premier point, c'était le besoin exprimé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Deuxième point, on va regarder le besoin qui est rencontré par le Seigneur lorsqu'il dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. La grande simplicité de cette petite phrase est absolument admirable. Elle est si riche et si simple et elle peut être comprise par un enfant. Cependant, elle est d'une richesse spirituelle inouïe. Sa valeur, bien entendu, est ineffable, qui veut dire qu'on ne peut pas trouver les mots pour vraiment l'exprimer correctement, et insondable. Alors, elle résout le problème que tous les philosophes grecs et romains n'ont pu solutionner. Et le problème était le suivant. Comment l'homme peut-il trouver la paix avec Dieu? Alors, si on regarde cette phrase-là, « qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent », on peut aussi la situer avec six autres phrases qu'on peut appeler des phrases d'or que le Seigneur a dit. Alors, et par exemple, dans Jean, chapitre 6, verset 35, « Et Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de la vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim, et qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc, une autre phrase d'or, Jean 8, 12, « Jésus leur parla donc de nouveau en disant, « Je suis la lumière du monde. » Qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Une autre phrase d'or, ou verset d'or, Jean chapitre 10, verset 9, lorsque le Seigneur dit « Je suis la porte. Si c'est par moi que quelqu'un entre, il sera sauvé, et il entrera et sortira et trouvera de la pâture. » Quatrième, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Cinquième, Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, lorsque le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est bon et mon fardeau léger. » Et le sixième, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai point dehors. » Alors, quand on regarde quelle est la somme et la substance de cette phrase-là, quand Jésus dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, c'est vraiment ceci. C'est que Christ est la fontaine d'eau vive que Dieu a gracieusement pourvu pour les âmes qui ont spirituellement soif. En Christ, notre Rédempteur et notre Substitut, nous trouvons une provision suffisante pour tout ce que les hommes ont besoin. Je parle dans le sens spirituel du mot. Pardon, absolution, miséricorde, grâce, paix, repos, soulagement, réconfort et espérance. Alors, quand on parle d'eau, d'eau vive, tous ces besoins-là sont comblés par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette riche provision-là nous a été apportée au prix du précieux sang de Christ. On lit par exemple dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21-24, « Car c'est à quoi vous avez été appelés, puisque Christ aussi souffrit pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces, lui qui ne commit point de péché, et dans la bouche duquel il ne fut trouvé aucune fraude, qui, outragé, ne rendait point d'outrage, souffrant, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, qui porta lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vécussions à la justice, lui enfin par la meurtrissure duquel vous avez été guéri. » Et le verset que je vous ai partagé souvent dans des sermons que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 et 21, qui est un résumé de l'Évangile. C'est donc pour le Christ que nous sommes ambassadeurs, comme si Dieu exhortait par notre moyen. C'est pour le Christ que nous supplions, disant, soyez réconciliés avec Christ. On dit qu'on supplie. Quand on supplie quelqu'un, c'est vraiment, on s'adresse à lui, je t'en supplie. Tu sais, mais là, le Seigneur nous demande d'aller voir les autres et de les supplier de se réconcilier avec Christ. Dans le verset 21, ça dit, « Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait être péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. » On sait tous que l'efficacité d'un médicament dépend dans une grande mesure de la manière dont on le prend. Si un médecin nous prescrit quelque chose, puis il nous dit « il faut t'en prendre un comprimé le matin pour un comprimé le soir », j'en prends 6 comprimés le matin puis 6 le soir, ça fera peut-être pas le même effet. Hein? Alors, la meilleure prescription du meilleur médecin ne sera fonctionnelle que lorsqu'elle sera prise selon les instructions. Voici donc un mot d'exhortation et un conseil concernant l'utilisation de la fontaine d'eau vive. Premièrement, celui qui a soif et cherche du soulagement doit venir à Christ lui-même. Alors les âmes ne peuvent pas se contenter de venir à l'Église, ni de prendre les ordonnances du repas du Seigneur ou de prendre le baptême, ni juste d'assister à leurs assemblées, ni juste de prier, ni juste de louer. Parce que quelqu'un pourrait avoir fait ça pendant des années. J'avais déjà raconté l'histoire de la femme du missionnaire Paul Washer aux États-Unis, un pasteur. Il est allé en Amérique du Sud, il a été là pendant des vingtaines d'années. Sa femme l'a suivi partout. Puis au bout de 20-quelques années, à un moment donné, au cours d'un sermon, un dimanche, elle s'est rendue compte que durant tout ce temps-là, elle avait assisté à des sermons, elle avait été fidèle à son église, mais elle n'était pas sauvée. C'est quand on dit que si on veut profiter de la source d'eau vive, il faut venir à Christ lui-même, c'est pas les venir à l'église ou toutes les choses qu'on peut faire dans une église. Il faut venir à la personne de Christ lui-même. Alors dans Jean 4, versets 13 et 14, ça dit, « Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Là, il parlait de l'eau physique, là. Tandis que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante en vie éternelle. Alors les âmes doivent venir au roi lui-même, et non pas à tous les moyens que les églises pratiquent pour le culte du Seigneur. Deuxième chose, l'âme assoiffée doit venir sans tarder à Christ. On sait, la procrastination, c'est une habitude que la plupart des hommes ont. Pas la plupart, je dirais même la totalité des hommes. On est toujours porté à remettre à plus tard ce qu'on sait qu'on doit faire maintenant. Alors, il n'est pas suffisant de désirer y aller ou uniquement d'en parler. Nous savons tous que l'enfer, selon est pavé de bonnes intentions, selon la phrase qu'on dit souvent. Alors, comme le fils prodigue, nous devons entrer en nous-mêmes, puis venir avec confiance au grand souverain sacrificateur, au grand médecin. Dans Luc 15, on a cette histoire qui est intéressante, dans 17 à 24. Alors, on parle du jeune homme là, qui revient à son père après avoir mené une vie de dissolution. Mais étant rentré en lui-même, donc ça parle de réflexion, il dit « Combien de mercenaires de mon père qui ont du pain en abondance, et moi, je péris de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'est enlevé, il alla vers son père. Or, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et, accourant, il se jeta à son cou et le baisa. Mais le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez la plus belle robe longue et l'en revêtez, et donnez un anneau pour sa main. » Et une chaussure pour ses pieds, et amenez le veau gras et le tuer. Mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils se mirent à se réjouir. Alors c'est vraiment, première chose, on se doit de venir au Christ lui-même, au roi lui-même. Deuxième chose, on ne se doit pas de retarder. On doit se venir à Christ sans tarder. La troisième chose, l'âme assoiffée doit se souvenir que la foi est la seule chose requise. Que toutes les âmes viennent avec un cœur brisé et contrit, mais qu'il n'y ait pas de confusion. Elles ne doivent pas s'appuyer sur cet état d'esprit, mais bien sur Christ lui-même. La foi est cette main qui peut amener l'eau vive à nos lèvres. La foi est cette charnière ou le gond sur lequel tourne toute notre justification. Ça dit dans Jean, chapitre 3, versets 15 et 16, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, pour les Juifs, Jésus, on le sait, dans les Écritures, nous le présente, pour les Juifs, quand ils ont regarder la vie de Jésus, ça a été pour eux une pierre d'achoppement, comme on lit dans Jean 5, versets 37 à 40. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face et sa parole. Vous ne l'avez point demeuré en vous, parce que vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir par elle la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Alors, pour les Juifs, Jésus est devenu une pierre d'achoppement, comme ça dit dans les Écritures. Mais pour les non-Juifs, les Écritures nous disent que souvent, quand on parle du Seigneur à quelqu'un qui n'est pas un Juif, souvent, ils voient ça comme une folie. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22-23, « Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, pour nous, nous prêchons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. » Alors, on se devrait d'exprimer notre reconnaissance à Dieu de vivre dans un pays où le grand remède est connu, dans une terre où la Bible est ouverte, où l'Évangile est prêché, et où des milliers d'églises locales parlent encore de Christ plus ou moins fidèlement tous les dimanches. Alors, c'est J.C. Ryle qui dit ça parce qu'il parlait de l'Angleterre. Mais nous, on peut parler du Canada, on peut parler des États-Unis, où il y a encore, peut-être pas aussi nombreux qu'aux États-Unis ou en Angleterre, parce que le pays était beaucoup plus christianisé dans le sens de l'Évangile qu'au Québec, parce qu'au Québec, on est vraiment submergé par le catholicisme, mais je veux dire, il y a quand même un grand nombre d'églises qui sont disponibles, la Bible est ouverte, le remède est connu, les Bibles se promènent, on entend parler du Seigneur à la radio, dans les médias, un peu partout. Alors, lorsque nous observons les misérables conditions de beaucoup de peuples, en Afrique, en Asie, ou dans d'autres régions où Christ est peu ou pas connu, on a nommé deux tantôt, l'Irak, l'Iran. Nous devrions éclater de joie de pouvoir jouir de la connaissance de Christ qui existe dans notre pays, mais qui est parfois si négligés. Même chez les chrétiens, des fois. On est chrétien, mais on néglige beaucoup de moyens de grâce que le Seigneur met à notre disposition, mais qu'on utilise malheureusement souvent un peu de façon négligée. Alors, l'ingratitude est un grave péché qui peut attirer un jugement divin. Le troisième point qu'on va regarder, c'est que la soif spirituelle, c'est un besoin qui est sursatisfait. On parle de satisfaction, mais on parle de sursatisfaction, ça veut dire que le Seigneur en donne plus qu'on a vraiment besoin. Alors, c'est quand ça dit au verset 38, « Si quelqu'un croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. » Des fleuves. Quand on va sur le bord du fleuve Saint-Laurent, dans certains endroits, c'est d'une largeur, il y a de l'eau qui circule en quantité phénoménale. Et c'est de ça qu'il parle de nous, là. Il dit que si quelqu'un croit en lui, selon ce que l'Écriture a dit, donc il s'appuie en plus sur l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. Après ça, il dit, « Or, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'avait pas encore d'Esprit Saint répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Il a été glorifié quand? À sa résurrection. Et à sa résurrection, peu de temps après, il y a eu la Pentecôte, et l'Esprit Saint s'est mis à habiter. Tous les chrétiens qui ont été régénérés, nés de nouveau, après cette époque-là, sont devenus des personnes habitées par le Saint-Esprit. Et c'est énorme, le don du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus grand que... Des fois, on en parle avec une légèreté, et on se devrait pas... On rentre dans des grands mystères quand on parle de l'habitation du Saint-Esprit. Alors, on va examiner maintenant la promesse divine. Il est à craindre que le sujet des promesses divines soit quelque peu négligé de nos jours et ne soit devenu sous-utilisé et sous-apprécié. En passant, je pense qu'il est en haut. J'avais imprimé il y a quelques années, j'avais trouvé ça sur Internet. Il y a un pasteur qui avait fait, il avait pris toutes les promesses qu'il y a dans la Bible et ils avaient classifié avec toutes les classifications. Et ce docteur-là s'appelait Samuel Clark. Et je l'ai imprimé, puis je l'ai trouvé aussi en format numérique. Alors, si jamais l'un d'entre vous serait intéressé à l'avoir, là, c'est un livre dans lequel il y a 1500 promesses divines classifiées en 180 catégories. Et quand il dit que, de nos jours, c'est négligé, sous-utilisé et sous-apprécié, je pense que là, il frappe direct dans le mille. Parce que ces outils-là existent. J'en ai vu des quelques livres qui parlaient des promesses de Dieu, mais c'est pas des livres qui ont une circulation terrible. Pourtant, quand on lit les Écritures et quand... Parce que Dieu permet qu'on... Quand on prie... On réclame ce qu'il nous promet dans les Écritures, dépendamment des catégories. Il nous promet la protection, il nous promet les provisions, il nous promet et plein de choses. Et plus on connaîtrait ces choses-là, moi je me souviens d'avoir lu une biographie d'une madame qui avait été faite avec son mari en Chine, et elle raconte que le Seigneur lui avait demandé d'écrire tout ce qui s'était passé dans sa vie en réponse à des promesses divines qu'elle connaissait et qu'elle réclamait auprès de Dieu et qu'elle a reçu des réponses. C'est assez extraordinaire de lire ces choses-là. Alors, si jamais il y en a qui sont intéressés à avoir où se procurer ces choses-là, vous me le demanderez et je vous les donnerai. Quand ça dit, alors on peut trouver encouragement et de nombreux bénéfices à connaître, à méditer et à réclamer les promesses, précieuses promesses de Dieu. Vu dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, ça nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné gratuitement tout ce qui se rapporte à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été gratuitement donnés les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous eussiez communication de la nature divine, après vous être retiré de la corruption qui est dans le monde par la convoitise. » Autrement dit, il est en train de nous dire que le Seigneur nous a donné absolument tout ce qu'on a besoin, C'est un peu comme si quelqu'un, un père, il te donnerait, voici mon fils, je vais te donner telle, telle chose, et puis il te donnerait toute la liste de ce qu'il te donne, puis toi, tu le ramanges pas, ce qu'il te donne. Il nous en a donné une quantité industrielle. Alors, les promesses des hommes, on sait que les promesses des hommes sont toujours incertaines. Souvent, on va dire des promesses d'ivrogne. Alors, celles de Dieu, au contraire, elles sont absolument sûres et s'accompliront toujours avec puissance. Moi, c'est quand on parle de 1500 promesses, si on nous demandait ce soir, prends une feuille de papier, puis écris-moi-en donc 10. Pensez-vous qu'on serait capable? Alors, c'est la preuve que c'est un sujet qu'on se devrait de connaître, de mieux apprécier et d'utiliser. Quand Dieu promet quelque chose, on peut lui réclamer ce qu'il nous a promis. On peut. C'est pas défendu, là, c'est même permis. Le Seigneur est honoré quand on lui demande ces choses-là. Alors, Jacques 1, verset 17 nous dit: Ne vous égarez point, mes frères bien-aimés, toute bonne donation et tout don parfait est d'en haut, descendant du Père des Lumières, par-devers qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Quand le Seigneur a fait une promesse qui sont dans ses Écritures, tu es sûr que tu peux la réclamer, puis tu es sûr que le Seigneur va tenir sa promesse. Alors de là, la nécessité pour nous de mieux les connaître, de mieux les utiliser, de mieux les réclamer auprès de Dieu. Parce que les 180 catégories, là, ils représentent à peu près tous les besoins possibles et imaginables qu'on peut avoir dans la vie du point de vue spirituel. Alors, quand on a un besoin, on a peur, on a ci, on manque de ci, on manque de ça. Toutes les promesses sont là et on peut aller avec le Seigneur dire dans tel verset, tu nous promets telle chose, je réclame que tu accomplisses ta promesse. Et c'est pas de manquer de respect au Seigneur, ça. Au contraire. C'est de lui montrer un grand respect en croyant qu'il va accomplir ce qu'il t'a promis. Hébreux 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi Dieu voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immuabilité de son conseil, intervint comme médiateur par un serment, afin que par le moyen de deux choses immuables. Une chose immuable, c'est quoi? Une chose qui ne bouge pas. Après que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une consolation puissante, nous qui avons en notre refuge à saisir l'espérance qui est devant nous. Le sujet des promesses divines est infiniment riche et inépuisable. Les promesses sont le trésor divin pour toutes les conditions de l'homme, pour obtenir sa miséricorde, sa compassion, sa volonté de pardonner et d'absoudre les pécheurs, sa capacité de changer les cœurs, ses encouragements à utiliser le trône de la grâce, la force pour accomplir son devoir, le réconfort dans le trouble, la direction, la protection, l'aide dans la maladie, la consolation dans la mort, le support dans l'épreuve, le bonheur après la mort et la récompense dans la gloire. Et je t'en prie, je n'ai pas toutes fait les catégories. Alors, personne ne peut imaginer pleinement la richesse des promesses divines à moins de passer beaucoup de temps à sonder les Saintes Écritures. Et après l'avoir fait, nous ne pourrions que nous écrier, comme la reine de Sheba, après qu'elle eut constaté de ses propres yeux la sagesse de Salomon. 1 Roi, chapitre 10, versets 6 à 8. Et elle dit au roi: C'était la vérité, ce que j'avais entendu dire dans mon pays, de tes discours et de ta sagesse. Et je n'ai pas cru à ces choses jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Et voici, ne m'en avait pas rapporté la moitié. Tu surpasses en sagesse et en prospérité tout ce que j'avais entendu dire. Heureux tes gens, heureux tes esclaves que voilà qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Pourtant, dans les Écritures, les promesses de Dieu. Elle avait entendu parler de comment la sagesse de Salomon. Et elle vient le voir et elle dit, je ne le croyais pas. Elle dit, je viens de voir, là, puis elle dit, tout ce qu'il m'avait raconté, il ne m'en avait pas raconté la moitié, il était encore plus sage que tout ce qu'on m'avait raconté. Mais par rapport aux promesses de Dieu, nous aussi, on pourrait s'écrier comme elle. plus on les connaîtrait, plus on dirait, tu m'en avais pas rapporté la moitié de toutes les promesses que Dieu fait et que lui est fidèle à les accomplir. Alors, les mots soif, boive et eau vive parlent de la glorieuse personne du Saint-Esprit. Voici dans le verset 39, il dit « Or, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit Saint répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Alors, le Saint-Esprit, c'est une abondante provision pour soulager les besoins de l'âme de l'homme. Alors, le Seigneur voulait faire comprendre à ses disciples et aux futurs croyants que celui qui viendrait à lui trouverait une abondante provision pour soulager tous les besoins de son âme. Le Saint-Esprit apportera un satisfaisant sens du pardon, une paix et de l'espérance comme une source ou un puits qui ne s'asséchera jamais. Jean chapitre 16, versets 13 et 15. Et quand celui-là sera venu, c'est le Christ qui parle du Saint-Esprit à venir. Et quand celui-là sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera point de son chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors les croyants trouveront dans le Saint-Esprit tout ce qu'il faut pour leur donner du repos dans leur anxiété spirituelle concernant la mort, concernant le jugement et concernant leur destinée éternelle. Alors le Saint-Esprit sera une fontaine inépuisable de consolation. Deuxième point, le Saint-Esprit sera une source de bénédiction pour les âmes des autres. Ça, on oublie ça. Nous, comme chrétiens, on devient une source de bénédiction pour l'âme des autres. On va développer. Le Saint-Esprit, qui habitera le croyant, fera de lui une bénédiction pour les autres. Romains 14, versets 7 et 8, « Car nul de nous ne vit pour soi-même, et nul ne meurt pour soi-même. Car soit que nous vivions, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Soit que nous mourions, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Alors les croyants seront utilisés instrumentalement pour la conversion d'autres personnes par Dieu. Ils deviendront un canal par lequel le Seigneur répand sa bénédiction et sa grâce. Si, au cours de votre vie, vous avez témoigné à quelqu'un et que par votre instrument, le Seigneur sort de vous comme d'un instrument, il y a une autre âme qui est venue au Seigneur, quand on dit qu'on devient une source de bénédiction, c'est vrai. Alors, certains, les croyants, seront utilisés instrumentalement pour la conversion d'autres personnes par Dieu. Ils deviendront un canal par lequel le Seigneur répand sa grâce. Alors, certains croyants sont des rivières d'eau vive durant leur vie terrestre. Par les mots qu'ils prononcent, par leur comportement et par leurs enseignements. D'autres croyants deviennent des rivières d'eau vive lorsqu'ils meurent. Nous pouvons, par exemple, citer les martyrs ou Samson ou d'autres. On pourrait citer une multitude de chrétiens qui ont, après leur mort, sont devenus une source très, très, très abondante de bénédictions pour les autres. On va prendre certains croyants continuent d'être des rivières d'eau vive longtemps après leur mort. On pourrait citer des exemples, je ne sais pas si vous les connaissez, Charles Spurgeon. Moi, je lis encore des sermons de Charles Spurgeon. En 2017, ça fait au-dessus de 150 ans qu'il est mort. John Bunyan, Le voyage du pèlerin, ça a été écrit, ça fait plus que 300 ans. On le lit, on est encore abondamment béni à cause de ça. Robert McShane et une multitude d'autres serviteurs, soit des pasteurs, soit des missionnaires, soit des grands hommes de prière ou des grandes femmes de prière. tous les chrétiens qui ont reçu beaucoup du Seigneur finissent par devenir une source de bénédiction pour les autres. Voyez-vous, Hébreux 11, verset 4, ça dit « Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Par elle, il reçut le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage au sujet de ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. » Abel, on recule de loin, là. Puis la Bible nous dit qu'il parle encore. Alors le témoignage, quand on appartient au Seigneur, notre témoignage peut avoir un impact énorme sur d'autres personnes. Alors certains croyants sont de véritables rivières d'eau vive par la beauté de leur conduite quotidienne. Alors 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2. « Pareillement, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui soient rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite de leurs femmes, lorsqu'ils auront remarqué votre conduite pure dans la crainte. » Autrement dit, tu es en train de dire que si tu appliques la parole dans ta vie, même si tu ne parles pas avec des mots, ton témoignage peut être suffisamment fort pour emmener quelqu'un au Seigneur. C'est quand même extraordinaire. Alors, certains chrétiens ou chrétiennes sont remarquables dans leur amour des autres, leur caractère doux et patient, leur générosité, leur esprit de service. Une vieille dame anglaise témoignait qu'elle devait son salut à l'observation du caractère de l'illustre prédicateur George Whitefield. Elle avoua, à la fin de sa vie, que ce ne furent pas ses sermons qui la touchèrent, mais la magnifique consistance de sa bonté dans sa vie quotidienne. Voyez-vous, il a prêché, elle l'a entendu des dizaines, peut-être même des centaines de fois, mais ce qui l'a touché, c'est de le voir agir dans son quotidien. Ça, ça parle fort. Alors, trois applications. Pouvons-nous dire que vous connaissez quelque chose de cette soif spirituelle? Avez-vous déjà senti votre culpabilité et votre perdition à cause de vos innombrables péchés? Avez-vous déjà cherché à soulager votre conscience et fortement désiré le salut de votre âme? Pour ceux qui ne le reconnaîtront pas. Deuxième application, la fontaine et la porte sont encore ouvertes, mais elles peuvent être closes à jamais, à tout moment. Ne remettez pas à plus tard de venir à Christ et à implorer sa grâce et sa miséricorde pour le pardon de vos péchés. Troisième application, si vous avez déjà reçu l'eau vive, n'oubliez surtout pas de rendre grâce au Seigneur pour son don ineffable. Alors, le pauvre pécheur fatigué et chargé ne peut absolument rien pour son salut par lui-même. Il doit pleinement réaliser sa totale incapacité et son désespoir. Il doit obligatoirement alors se tourner vers Christ pour obtenir la grâce du salut. Voyez-vous, dans Romains 8, versets 6 à 9, ça dit « Car la pensée de la chair est mort, mais la pensée de l'esprit vit et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet point à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, or si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Que notre grand et glorieux et souverain Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.